Bon, comme j'ai dit, on va parler aujourd'hui de féminité. Qu'est-ce que signifie être une femme au 20e siècle? On parle des beautés, des compétences aussi. Une femme, aujourd'hui, elle peut faire une carrière, peut gérer une entreprise, et puis aussi, elle peut préparer très bons repas pour nos enfants. Et mettre une femme, c'est difficile de nos jours aussi. Dans le domaine du travail, les femmes reçoivent souvent des salaires plus bas. Hein? Et jusqu'à aujourd'hui, là, je pense que les femmes reçoivent un salaire plus bas. Et puis, c'est ça la lutte. D'une part, là, les femmes sont haut placées, mais il y a aussi la lutte du salaire. La société réclame aussi une égalité des hommes et femmes. Mais beaucoup des femmes, si on s'en va un peu plus loin, souffrent sur les charges encore plus lourdes. Qu'est-ce qu'on peut voir dans le monde actuel? C'est l'abus, le trafic sexuel. On est tous témoins de ça, de certains endroits, l'incapacité encore de voter. Il y a des pays encore où les femmes ne peuvent pas voter. Un article récent, mon beau-frère, il vient des Kurdistan. Là, les femmes, là, ils se sentent tellement opprimées, ils se sentent tellement pression de la part des hommes qu'il y a un taux de mortalité, des suicides dans ce pays-là à cause des pressions qu'ils font les hommes. Donc, d'une part, il y a des ententes exaltées, des ententes, des défis, puis d'autre part, il y a la souffrance dans le monde. Et donc, où nous pouvons aller vraiment savoir qu'est-ce que signifie une femme? Qu'est-ce qu'une femme? C'est quoi la féminité? Où les hommes peuvent apprendre aussi à traiter les femmes? Où est-ce que les hommes peuvent apprendre à traiter les femmes? Et vous le savez très bien, pour nous, c'est dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Donc on va peut-être avoir un aperçu. Tout d'abord, les femmes et les hommes ont été créés à l'image de Dieu. Les deux pour glorifier Dieu dans nos vies, dans nos rôles. Mais les femmes ont un problème beaucoup plus grand que le monde ne le reconnaît. C'est quoi? C'est pas leur mari. C'est quoi? C'est le péché. Tout comme les hommes. C'est un problème très grand. C'est la rébellion contre Dieu. Mais on a aussi un sauveur qui peut nous aider. Il peut vous aider. Nous aider tous. Vous comme femme, parce qu'on parle de féminité, mais il peut nous aider Dieu à nous tous dans ce monde-là. Et les femmes aussi ont reçu l'instruction de notre sauveur dans sa parole, comme je viens de dire. Nous avons déjà énoncé un caractère biblique par rapport à la masculinité. Selon Dieu, et un sens bienveillant des responsabilités pour diriger, pour voir aux besoins et protéger les femmes d'une manière appropriée au type des relations qu'il a avec elles. C'est sûr, parce que les hommes, il y a des hommes célibataires, il y a des hommes qui sont mariés, donc la relation est différente. Il y a une définition de la féminité aussi que nous allons un peu aujourd'hui voir à la fin. On va définir aussi un peu qu'est-ce que c'est la féminité selon Dieu. Et nous allons voir dans la parole de Dieu comment Dieu définit dans les Écritures qu'est-ce qu'une femme. Mais avant ça, on va considérer deux choses. La féminité biblique est plus clairement vue dans la façon dont les femmes répondent au modèle que Dieu a établi dans la masculinité biblique. La féminité biblique est plus clairement vue dans la façon dont les femmes... Parce qu'au début, Dieu a créé l'homme et les femmes. C'est la première relation entre les femmes. Et on peut voir clairement par rapport au rôle que Dieu a donné. Mais dans l'Écriture aussi, l'Écriture décrit souvent la féminité dans le contexte d'une relation conjugale. Cela ne veut pas dire qu'une femme doit être mariée pour être féminine. Vous êtes tous d'accord avec ça? C'est pas juste dans le mariage que vous allez pouvoir exercer votre rôle de femme. C'est bon? Au début, ça a été comme ça. Mais vous êtes tous d'accord qu'il y a des femmes célibataires. Puis on va tout voir ça ce matin. Mais tout d'abord, on va voir les fondements bibliques. On a parlé tantôt, on va peut-être faire une petite révision de ce qu'on a vu il y a deux semaines. L'homme et la femme sont faits à l'image de Dieu. L'homme et la femme sont égaux en quoi? En valeur, dignité et importance devant Dieu. Dieu donne aux hommes et aux femmes, selon Genèse 2, 15, 24, vous pouvez ouvrir vos Bibles si vous voulez aller dans, parce qu'on va voir des Genèse 1 à Genèse 3, ok? Dans Genèse 2, 15 à 24, on voit que Dieu donne aux hommes et aux femmes des rôles. Richard a dit, ces rôles ne sont pas le résultat de la chute. Avant la chute, Dieu avait déjà donné des rôles à une femme puis à un homme. Et la rédemption de Jésus n'élève pas non plus cette distinction des rôles. L'homme a d'abord été créé, dans le verset 15, quand on parle, il reçoit la commission de Dieu l'Éternel, prit l'homme, il mit dans le jardin Éden pour le travailler et le garder. Alors l'Éternel Dieu, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu donne le rôle à la femme d'être une aide. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. Cela ne signifie pas qu'Ève a été créée pour passer la télécommande ou, préparer le petit déjeuner. C'est pas dire non plus que c'est pas mauvais, là. Okay? Dieu bénit l'homme avec elle pour l'aider à accomplir fidèlement et la commission que Dieu a donnée à l'homme. Ok, il a créé pour ça la femme. Pour bien commencer, il y a un commentaire biblique, un commentaire qui a fait Matthew Henry, vous connaissez, je pense. Il écrit des livres, puis il fait aussi des. Donc, il a écrit une belle phrase. Je pense que vous connaissez bien. Là. Dieu a créé la femme à partir d'une côte de l'homme, non de sa tête pour le diriger, ni de ses pieds pour être écrasé par lui, mais de son côté pour être son égal, sous ses bras pour être protégé et près de son cœur pour être aimé. C'est beau ça, hein? Ça illustre bien le rôle d'un homme, okay? Ben, surtout le rôle de l'homme aussi. Okay? Ben, la femme aussi n'est pas sa tête pour le diriger, ni ses pieds pour être écrasée par lui. Mais la question naturelle dans Genèse 2, comment les femmes peuvent être égales aux hommes dans la dignité, dans la valeur, dans l'importance aussi, surtout dans les mariages, ces rôles ne la rend pas fondamentalement inégale à l'homme. Est-ce que ça la rend inégale à l'homme? Le fait d'être une aide pour l'homme, le rôle que Dieu a donné. Pour répondre à ces questions, en Corinthiens 3, et Paul dit, « Mais je veux que vous compreniez que la tête de chaque homme est Christ, le chef d'une femme est son mari, et le chef de Christ est Dieu. » Je paraphrase un peu, mais le chef de Christ est Dieu. Paul parle ici spécifiquement du mariage, ok? Et le rôle qu'il joue dans l'Église, le mariage. Donc, Christ a une tête. C'est qui la tête de Christ? C'est qui ça? C'est Dieu le Père. Mais Christ est lui-même Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, la Trinité donne un tableau merveilleux, là, vraiment, de ce qui est l'égalité en essence, ok, mais la distinction des rôles, ok? Et dans la Bible, c'est ça, les rôles sont différents, ok? Mais l'essence est pareille. On est tous pareils. On est égaux devant Dieu. On est pareils devant Dieu. Est-ce que les femmes devraient être offensées qu'elles soient créées pour avoir une disposition d'aide? Il y en a que oui, peut-être, sont offensées pour être une disposition d'aide. Pas plus que les hommes devraient être offensés parce qu'ils ont besoin d'aide. Il y a des hommes qui disent, j'ai pas besoin d'aide, là. La femme devrait pas être non plus offensée qu'elle soit créée de la côte d'un homme. Et pas plus que l'homme devrait être offensé parce qu'il a été créé de la terre. Dieu a créé l'homme de la femme et les deux sont égaux. Ève était censée de suivre et aider son mari. Qu'est-ce qui s'est passé dans Genèse 3? Et c'est là, elle a été conduite dans la tentation. Et la malédiction donnée dans Genèse 3:16 montre que maintenant les femmes auront des enfants dans la douleur. Il y aura des conflits dans la relation. Qu'est-ce qui arrive donc? Auront des enfants dans la douleur, il y aura des conflits dans la relation. En d'autres termes, la chute, avant la chute, Ève s'est préoccupée pour souhaiter et faciliter le leadership d'Adam. Mais après la chute, les femmes luttent pour honorer, respecter, faire confiance, se réjouir et encourager le leadership. Je ne parle pas de toutes les femmes, mais on a ces problèmes-là. Remarquez cependant qu'avant la chute, Ève avait un rôle essentiel de jouer dans le mandat de Dieu de fructifier, de se multiplier. Okay? Il ne peut pas faire Adam tout seul. Donc donner des enfants, donner à vie, c'est multiplier. Et même après la chute, Dieu a ordonné que la partie des rôles d'Ève et impliquerait toujours provoquer la vie. En hébreu, le mot « Ève », ça envoie vers le mot « vie ». Regardez dans 3:20, l'homme appela le nom « Ève » à sa femme, parce qu'elle était mère de tous les vivants. Donc maintenant, j'aimerais qu'on aille à Éphésiens 5, okay, versets 22 et 24, et on va sauter jusqu'au verset 33. Okay?
Ok, ça dit « Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. »
Dans ces versets, nous voyons, qu'est-ce que nous voyons? Que les épouses sont appelées à quoi? À se soumettre et à respecter leur mari. C'est ça? Maintenant, il y en a qui pensent, mais dans ce monde-là, il y en a qui pensent que ces idées sont archaïques, qui écrasent la femme, la dignité d'une femme. On compare à un militaire, un homme qui écrase les femmes. Comme nous le verrons, la Bible ne parle pas du tout de ça. Okay? L'autorité qu'il y a dans le monde, ce n'est pas l'autorité spirituelle que Dieu nous donne, et le rôle que Dieu donne à l'homme. Ce n'est pas du tout comme dans le monde. Malheureusement, on est influencé par le monde, par notre société. Mais il faut vraiment, c'est pour ça que c'est important d'aller ce que la parole de Dieu. C'est important d'aller chercher ce que la parole de Dieu dit. Et des fois, on est confronté à une vérité qu'on est étonné même de ce que la parole de Dieu dit pour nous. Le mot soumettre s'est placé sous l'autorité d'autrui. Paul parle spécifiquement de la soumission dans quelques relations clés, dans le mariage. Cela signifie que l'épouse reconnaît que Dieu a placé son mari sur elle. Elle est appelée à faire confiance à son mari, comme celui qui a ordonné, dirigé, guidé, protégé. Il faut faire confiance à son mari, se soumettre à lui. Et il y a un point important dans le verset 22, c'est marqué « comme au Seigneur ». Comment les femmes sont soumises à Dieu, au Seigneur? Se soumettre à leur mari comme vous vous soumettez à Dieu. C'est ce que Paul enseigne. Quand une femme se soumet à son mari, elle se soumet au Seigneur, en fait. Okay? Comme dans n'importe quelle autorité, en Corinthiens 13 parle aussi, c'est que Dieu a mis les autorités pour qu'on puisse, nous tous, être soumis. Et celui qui n'est pas soumis à cette autorité, il se révèle, pas aux autorités, oui aussi, mais à Dieu aussi. Parce que Dieu a mis des autorités dans le monde. Donc l'autorité du mari n'est pas ultime, est déléguée et partielle. Okay? Ça, il faut savoir ça, l'autorité n'est pas ultime. Quand elle suit le leadership de son mari, elle suit Jésus aussi. Okay, elle se soumet à Jésus en se soumettant à son mari. Donc l'autorité ultime, c'est Dieu. Se soumettre à un mari imparfait tout en faisant confiance au Sauveur parfait, oui, selon la Bible, oui. Ce n'est pas facile de se soumettre à quelqu'un qui est difficile parce que son mari n'est pas parfait comme Jésus-Christ. Okay, mais les femmes, j'allais dire, on est appelées, vous êtes appelées à vous soumettre à vos maris. Se soumettre ne veut pas dire rester en silence. Okay, se soumettre, ça veut dire encourager à son mari, à que son mari puisse effectuer le rôle que Dieu aussi lui a donné. Ce n'est pas facile, oui, je sais, parce qu'on est tous, même la femme comme l'homme, on n'est pas parfait. Et ce qui est important, c'est vraiment se soumettre à Dieu, avant. Puis Dieu va nous aider à pouvoir, va vous aider à pouvoir vous soumettre à votre mari. En fait, c'est un acte de foi qui honore Dieu. C'est un acte de foi qui honore Dieu. Maintenant, la tête ne signifie pas que le mari peut continuer dans le péché, ok? Et un mari violent renonce au droit de diriger. Okay? Chaque mari est imparfait, mais il y a des moments où le mari peut traverser la ligne. La femme ne devrait pas se soumettre à quelqu'un qui est à l'encontre de la parole de Dieu. À ces moments-là, là, okay, c'est ça. Les maris et les hommes qui abusent de leur autorité ne remplissent pas le rôle biblique et seront responsables. Ils vont être responsables devant Dieu. Okay? Mais quand il arrive des choses comme ça, mes sœurs, c'est pour ça qu'à l'Église, on est tous des frères et sœurs, qu'on puisse prier. Et puis, il y a des anciens qui sont responsables de l'Église. Les femmes peuvent aller consulter ces anciens-là. Puis un peu, dans cette Église, Dieu merci, ça arrive, ça. Qu'on va parler avec soit la femme, soit l'homme, pour pouvoir régler ce genre de conflits. Il faut en parler de ça. C'est pour ça que Dieu nous place dans cette Église-là, à l'Église. Dieu peut enlever ces bagages-là. Seulement lui peut enlever tous ces bagages-là, toutes ces choses qu'on traîne depuis longtemps. Je sais qu'il y a des gens... moi, je vis d'une famille que mes parents sont mariés depuis longtemps. Wendy a eu autre expérience. Puis ça l'a affecté aussi dans nos mariages. Mais Dieu... C'est pour ça que c'est important d'aller vers ce que la parole de Dieu dit. Quoi qu'il soit notre bagage, quel que soit notre... Oui, je sais, ça nous affecte. Mais c'est Dieu qui va nous aider. On est conscient de ça et nous forcer pour que Dieu nous aide à pouvoir éliminer tout ça. Homme, Dieu tiendra responsable de tout ce que représente mal votre leadership, ok? C'est-à-dire un leadership abusif. Si le Seigneur vous appelle à être un mari, vous deviez assumer cette responsabilité avec crainte et tremblement, ok? J'aime beaucoup cette phrase. Ainsi que la joie et la confiance que le Seigneur se plaît à donner la grâce aux hommes. On a parlé un peu de ça aussi. Donc, il faut être avec tremblement. Et ça, c'est pour les hommes. OK? Considérons, là, maintenant. Pendant quelques minutes, il dit ce verset d'Éphésiens sur le mariage. Toutes les femmes ne sont pas appelées à se soumettre à tous les hommes de la même manière que dans le mariage. OK? Comme l'épouse est appelée à respecter, se soumettre à son mari. Mais tous les hommes ont la disposition de diriger, aimer et servir toutes les femmes. D'une certaine manière. Il y a une certaine attitude aussi que toutes les femmes devraient voir dans les autres hommes. Donc, on va continuer encore. La soumission féminine est une attitude du cœur pour appuyer, recevoir, encourager le rôle d'un homme donné par Dieu pour servir et protéger les autres. Ça, c'est le rôle qui a été donné à l'homme, servir et protéger les hommes. Et la soumission féminine est une attitude du cœur pour encourager ça, pour recevoir ça même. Donc, quelques exemples, mais mettons, il y a des exemples. La femme célibataire à la maison, les femmes célibataires dans l'église, les femmes travaillent à l'extérieur de la maison. Une femme célibataire, comment vous pensez que vous puissiez réaliser ce rôle-là envers les hommes? Mettons une femme célibataire qui est soumise à son père, il habite à la maison. Il doit le respecter, il doit être soumise aussi à l'autorité de son père, comme homme qu'il est. Pas de la même façon qu'avec un mari, mais c'est un homme, il a l'autorité dans le foyer, la confiance. Une femme célibataire à l'église aussi, les jeunes mamans, les veuves aussi, devraient montrer leur confiance, respecter les hommes de notre église aussi. Tu aurais une façon de les aider pour encourager leur ministère aussi. Les dames peuvent servir les hommes en s'habillant aussi d'une bonne manière. Oui, de cette façon, on peut servir les hommes aussi, à qu'ils puissent accomplir leur rôle. Vous pensez à la relation entre femmes à l'église, avec les anciens aussi, avec les diacres aussi, les dames d'une congrégation devraient avoir confiance, avoir les désirs et suivre la direction de ceux qui sont en autorité à l'église, autorité donnée encore par Dieu. Pas comme dans le monde. On n'est pas une entreprise ici. Pas comme dans le monde. Avec du respect. Les femmes qui sont en dehors aussi, dans le domaine du travail. Quelle attitude vous avez vers les hommes aussi, comme ceux qui ont à l'autorité, ou même les hommes qui travaillent avec vous? Quelle est votre attitude aussi? Je pense qu'une femme qui travaille doit être aussi montrer du respect aussi envers les hommes qui sont au niveau de notre travail, au milieu du travail. Et d'ailleurs, si on voit partir comment Dieu a créé l'ordre des choses, oui, l'homme a une autorité aussi. Et puis on peut voir aussi par rapport à cette, on doit du respect. C'est vrai que les hommes doivent du respect aux femmes partout. Il y a des femmes, tantôt je voulais parler, il y a des femmes qui sont comme chefs d'entreprise aussi. Elles doivent aussi traiter du respect. Pas parce que vous êtes à la tête d'une responsable des ressources humaines, vous allez devoir et avoir du respect avec les hommes. Vous êtes appelé à avoir du respect aussi. Pas parce que vous êtes responsable de ça. On voit quand même doit avoir du respect à l'autorité d'un homme. C'est notre autorité, Dieu. Okay? Mais le monde le voit différemment. Le monde, de toute façon, le monde ne veut rien savoir de Dieu. Si jamais quelqu'un rentre ici, là, un homme non chrétien, là, il peut voir, waouh, les femmes sont soumises. Là. C'est quoi cette affaire-là? C'est arriéré. C'est une secte. Il peut même nous appeler
lavage
des
du cerveau.
C'est ça, lavage du cerveau. Donc, malheureusement, on peut pas. On l'accepte aussi, nous, par l'Esprit de Dieu, parce qu'on croit en ce que la Bible dit. Proverbe 31, 10 à 31. Vous voyez les qualités de cette femme-là. Elle travaille, il dit, elle travaille des nuits pour aider. Elle utilise ses talents sagement, comme on voit ici. Peut-être vous allez trouver encore d'autres qualités pour cette femme-là. Ses efforts bénissent sa famille. Elle pourvoit sa famille. C'est ça? Des petites choses, elle peut faire beaucoup de choses. Et c'est important. Elle craint le Seigneur. Quoi d'autre? Son exemple devrait être inspirant et n'est pas décourageant. Pourquoi on dit ça? Son exemple devrait être inspirant et n'est pas décourageant. Est-ce que vous vous découragez quand vous lisez ces versets, mes sœurs? Les hommes, comment vous voyez ces versets? Là, vous dites, oh, ça, là, ça devrait être ma femme. Je vais le lire, là, toutes les soirs, là, je vais le lire, ça, là. Rappelez-vous, mes sœurs, ne soyez pas découragées de voir ça. Comme nous, on est découragés de voir ça, la sagesse de Salomon. Ou la sagesse aussi de Joseph, qu'il fuit le péché. Puis nous, des fois, on n'est pas à l'auteur. Ne soyez pas découragés, mais surtout les proverbes. C'est des proverbes de sagesse. C'est une femme décrite de façon idéalisée. L'auteur, là, il souligne ses forces, mais pas ses péchés et ses faiblesses. Les femmes ont tous des faiblesses, ont tous des péchés. Il est en train de souligner ses forces. Et c'est OK si on se sent peut-être comme femme. Oui, je ne suis pas l'auteur. Non, c'est vraiment un modèle qu'on doit suivre. C'est ce que Dieu nous laisse comme un modèle qu'on doit suivre. C'est sûr qu'une femme qui comble tout ça, waouh, gloire à Dieu, mais il ne faut pas se sentir découragé à cause de ces proverbes-là. Là, c'est une image de la féminité divine, ok? Il y a un site à dépendre du Seigneur, là. Femme, je veux vous dire qu'on est béni à cette église-là parce que nous voyons des femmes qui sont vraiment. On a des bons exemples ici dans notre église, je pense, pieuses, qui suivent Dieu, puis ils sont des exemples pour d'autres femmes jeunes, mariées, tout ça. C'est encourageant. Bon. Que les femmes, les jeunes femmes regardent cet exemple par rapport aux autres femmes plus âgées. Donc, on va passer maintenant à 1 Pierre 3, 1 à 6. Je vais le lire rapidement. Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à votre mari, afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre conduite pure et respectueuse N'ayez pas pour parure ce qui est extérieur, cheveux tressés, ornements d'or, manteau élégant, mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle, inaltérable, et un esprit doux et tranquille, voilà ce qui est un grand prix à Dieu. Ainsi, séparées autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, telle Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes les descendants, si vous faites le bien sans vous laisser troubler par crainte. C'est un beau passage aussi pour les femmes, surtout les femmes aussi. Il obéissait avant, il l'appelait son Seigneur. On a parlé tantôt de ça aussi, c'était une femme soumise. Mais soumise à des maris imparfaits, même incrédules, à quoi ressemble cette soumission? La parole de Dieu dit, « Quelques-uns qui n'obéissent pas à la parole. » Ça peut se traduire comme quoi? Comme un homme qui n'est pas mature dans sa foi? La réponse est oui, la femme doit être soumise même à lui, là, comme une femme. Il doit prier pour lui, surtout une femme chrétienne. Il doit être soumise à lui. L'encourager, s'il est en dehors, s'il est loin du Seigneur, et il dit qu'il ne suit pas la parole, l'encourager puisse suivre la parole, puisse être un homme de Dieu. Quelques-uns n'obéissent pas à la parole. C'est une situation difficile à supporter. L'homme, malheureusement, échoue au leadership que Dieu lui a donné, mais la femme est appelée à pouvoir le gagner sans parole. Sans parole, ça ne veut pas dire non plus rester muette. Okay? Sans parole, ça veut dire avec ses actes, ça, avec leur comportement, avec leur témoignage devant un mari qui a cette conduite. Vous êtes d'accord avec moi que des fois, votre femme vous encourage, en parenthèse, vous exhorte très sagement quand on est un peu, des fois on fait quelque chose. Oui, je pense qu'une femme peut faire ça, sans prendre le dessus, sans prendre l'autorité de l'homme. Pour quand on exhorte, ne pas prendre l'autorité de l'homme, nous exhorter sagement votre mari à pouvoir, toujours dans le but d'encourager son mari, à qu'il puisse faire le rôle que Dieu lui a prescrit. Le proverbe dit, la grâce est trompeuse et la beauté vaine. La femme qui craint l'Éternel sera louée. La beauté physique n'est pas mauvaise, mes frères, ma sœur. Okay? C'est un cadeau de Dieu. La Bible parle de belles femmes, tout ça. Mais ce n'est pas l'important pour Dieu. Ce n'est pas l'important. C'est un avantage peut-être pour des femmes, mais ce n'est pas l'importance de Dieu. Pourtant, la Bible clairement indique que le physique est inférieur à la sagesse. Dans le caractère d'une femme. Exemple des femmes dans la Bible. Vous connaissez l'histoire de Ruth? Oui? L'attitude, on peut voir l'exemple de cette femme. Et puis, de ces femmes-là, c'est des femmes qui sont soit célibataires ou pour un temps ont été célibataires. Okay? Puis ils sont confrontés, ils sont devant une autorité d'un homme. Puis on voit l'attitude, si vous avez lu le livre de Ruth, puis on voit vraiment l'attitude de Ruth, là. Fidèle à Noémie, est soumise à Boaz ou à Boaz différemment. Elle est soumise même à l'autorité de Boaz. Il n'était même pas son mari, mais il avait, si vous lisez ça, vous allez voir ces caractéristiques de cette femme-là. Après, elle marie Boaz, mais avant ça, elle s'adresse à lui avec beaucoup de respect, avec beaucoup en reconnaissant son autorité. Il n'était pas son mari, mais il a reconnu l'autorité de cet homme-là. On peut voir d'autres exemples aussi. Esther honore la direction de son père adoptif et obéit, puis même elle risque sa vie pour le peuple. Et elle n'est pas gênée de dire au roi qu'il la prend pour femme, intercéder pour son peuple, pour faire les bonnes choses pour Dieu. Là. On voit des exemples de ces femmes-là. Marie suit la direction de Joseph quand elle n'était pas encore un mari, était juste fiancée avec lui, là. Mais surtout se confie au Seigneur en tant que libérateur d'Israël. Dans la Bible, ces exemples-là, très importants, ça démontre les vertus particulières d'une femme. Il y en a d'autres exemples que vous pouvez trouver dans la Bible, des femmes qu'on peut imiter, leur foi. Abigail, merci mon frère. Ça nous amène à rapidement aller vers un caractère féminin, selon la Bible. L'essence de la féminité, okay, biblique, est une disposition libératrice pour appuyer, recevoir et encourager la force et le leadership des hommes des valeurs d'une manière appropriée au type de relation qu'elle a avec eux. Et c'est un peu semblable à ce qu'on a vu par rapport à la masculinité. L'essence de la féminité biblique est une disposition libératrice, une disposition appliquée au mariage, oui, une disposition appliquée. Une disposition, ça veut dire qu'on est d'accord à accomplir quelque chose, disposé à faire quelque chose de la bonne manière. Ça s'applique au mariage, ça s'applique aussi au célibat. la femme est disponible à pouvoir encourager, et, mettons au niveau de l'Église, le ministère d'autres hommes. Comme la féminité est libératrice, ça nous mène à la joie. Ça mène à la joie de pouvoir le faire. Okay? Parce qu'on est sûr que les femmes ont fait ça pour Dieu. Et une attitude biblique, une soumission à Dieu aussi, premièrement. Pour appuyer, recevoir et encourager la force et le leadership des hommes des valeurs. Qui sont ces hommes des valeurs? Ces hommes des valeurs, c'est des hommes chrétiens. C'est des hommes qui vraiment cherchent Dieu. Il faut encourager ces hommes-là, et au niveau de l'Église, au niveau de notre entourage, dans nos familles, notre Père, appuyer, recevoir et encourager ce ministère-là, ce rôle-là envers les hommes. Caractère féminin de la Bible, d'une manière appropriée au type de relations qui sont avec eux. Voici le point. Une femme biblique devra chercher à affirmer, encourager le rôle d'un homme en tant que leader-serviteur et son rôle de femme en tant qu'aide sous une forme appropriée dans toute ses relations avec les hommes. On peut être aide aussi avec d'autres frères, ok, comme femme, aider, ok, à pouvoir, et comme j'ai mentionné tantôt, que ce soit dans le ministère, que ce soit pour encourager, toujours dans le but d'encourager à l'homme. Et c'est vice-versa aussi. Les hommes cherchent aussi à encourager et que les femmes puissent avoir le rôle que Dieu leur a donné. Il y a une femme qui a écrit, elle écrit des livres, ok, c'est une missionnaire aussi. Okay, auprès des autochtones. Puis à un moment donné, elle a écrit elle s'appelle Elizabeth Elliot. Qui connaît ça? Qui connaît? Okay. Elle a écrit des livres aussi. Elle dit, le fait que je sois une femme ne fait pas de moi un chrétien différent. Okay? Mais le fait que je sois une chrétienne fait de moi une femme différente. C'est une belle pensée. Hein? Le fait que je sois une femme ne fait pas de moi un chrétien différent. Le fait que je sois chrétienne fait de moi une femme différente. C'est un beau verset, c'est des belles paroles, mais c'est pas ça qui nous enseigne. Okay? C'est des belles paroles, c'est des belles illustrations, je suis d'accord avec ça. Mais ce qui nous enseigne vraiment, c'est la parole de Dieu, les exemples qu'ils ont dans la parole de Dieu. Et ça vient d'un cœur qui est soumis à Dieu, en quelque sorte, et qui a compris vraiment ce que Dieu a comme rôle pour cette femme-là. Et basé à ça, elle peut s'exprimer, elle peut dire, c'est des bonnes paroles, comme tantôt on a vu Matthieu Henry qui parle d'une femme, des très belles paroles. Mais je pense que des très belles paroles, on peut la trouver, on peut s'appuyer sur la parole de Dieu pour faire ça. Et en conclusion, j'aimerais qu'on puisse lire que le Dieu de toute grâce qui est en Christ vous a appelé. Elle vous a appelé femme. Il nous a appelé homme pour réaliser ce rôle-là devant Dieu. Vous a appelé à sa gloire éternelle après que vous auriez souffert un peu de temps. Est-ce que c'est facile? Non, et surtout dans notre société aussi, ok? Parce qu'on est critiqué même par l'extérieur, dans nos milieux de travail aussi, ok? On est critiqué parce qu'on est s'affiche comme chrétien. Puis on a des principes et les gens regardent ça. On ne vit pas pour le monde. On est dans le monde, ok? Mais on vit pas dans on n'est pas du monde. Après vous aurez souffert un peu de temps, vous formera qui ça? Qui va vous former? Vous, lui-même, vous affirmera, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Donc, c'est vraiment en Dieu qu'il faut se confier. Vous, femmes, okay, nous, hommes, pour qu'il puisse nous aider et on puisse glorifier son nom en faisant ce que Dieu nous a commandé. Okay? Le rôle d'un homme, le rôle d'une femme, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, le rôle d'une femme comme mère, comme épouse, que ce soit comme une dirigeante au travail, responsable au travail. On verra ça, ces aspects-là aussi. Okay? Mais tout ça, en ce que la parole de Dieu dit. C'est ça notre source, notre, on peut dire à mes enfants, je dis toujours, c'est notre manuel. Okay? C'est comme, c'est notre manuel, c'est là qu'on apprend tout, c'est nos principes. Okay, et c'est pas arriéré. Oui, c'est très vieux, mais c'est toujours à la mode pour nous, les chrétiens. Amen. Donc, on va prier pour finir.